Alors le problème, c'est qu'on ne peut pas parler d'islam et État parce qu'il n'y a pas un islam. Il y a des musulmans et il y a un certain nombre de mouvements politico-religieux qui se réclament de l'islam et qui n'ont évidemment pas la même vision de l'islam que les autres. Donc on a une compétition, disons, pour la représentation politique, pour la représentation de l'islam dans le champ politique, entre grosso modo le parti Nahda et les différents mouvements salafis. Donc on a un champ diversifié qui conduit tout simplement, je dirais, à la diversification de la référence à l'islam. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un islam, et donc la question se pose en termes de diversité, de pluralisme religieux. C'est ça la question aujourd'hui. Et comment l'État peut-il gérer le pluralisme religieux? C'est toute la question. En particulier, comment gérer les mosquées, qui doit nommer les imams dans les mosquées, etc. Sur la place de l'islam dans la Constitution, on est tout simplement en train de reprendre l'ancienne Constitution, celle qui avait été établie à l'époque de Bourguiba et qui définit donc la Tunisie comme un pays musulman, arabophone et comme une république. La référence à l'islam reste donc une référence beaucoup plus identitaire que juridique.
Et les salafistes dans tout ça ?
Si vous voulez, il y a plusieurs types de salafisme. Il y a le salafi piétiste, c'est-à-dire ceux qui prêchent pour un retour individuel à la stricte pratique de la religion. Cela ne s'intéresse pas à la politique et ne s'intéresse pas à la Constitution. Très souvent, d'ailleurs, ils ne votent pas. Et puis, on a un petit groupe là, de salafis politiques qui se divisent en radicaux, plus ou moins partisans de Al-Qaïda, ceux qui se réclament beaucoup plus comme tunisiens, qui, eux, poussent à l'adoption de la charia dans la Constitution. Mais ce sont des groupes minoritaires, mais qui sont très bruyants. Hein. Par contre, je dirais le centre de l'espace politico-religieux est tenu par le parti Nahda, qui a renoncé au concept de l'État islamique et qui a renoncé à l'idée de mise en œuvre de la charia.
Peut-être est-il encore trop tôt pour le dire, mais est-ce que vous pensez que la Tunisie puisse réussir sa transition démocratique ?
Oui, il y aura des hauts et des bas, ça ne va pas être simple, mais les atouts, c'est d'abord la diversification du champ politique. C'est-à-dire tout simplement, personne n'est en position hégémonique. Donc ça, c'est une condition peut-être que purement négative, mais enfin, ça empêche une prise de pouvoir. Deux, qu'il n'y a pas de risque, comme en Égypte, d'un coup d'État militaire, et puis l'armée n'a pas de tradition d'intervention en Tunisie. Et trois, il n'y a pas de pétrole, ce qui est une très bonne chose pour la transition démocratique, parce qu'aucun État ne peut utiliser l'argent du pétrole pour construire un appareil sécuritaire ou pour tout simplement acheter la bienveillance de la population à coup de subvention.
Dans quelle mesure le cas tunisien peut-il interpeller l'Occident ?
Je crois que le cas tunisien devrait amener l'Occident à renoncer à ces espèces de clichés essentialistes et culturalistes sur l'islam. C'est-à-dire cette idée que tant qu'il n'y aura pas eu un réformateur qui aurait, disons, réformé le corpus théologique, eh bien, aucune réforme de type politique n'est possible. On voit au contraire que la réforme politique se fait dans le politique et que les conséquences sur le religieux sont secondaires, qu'elles arrivent après. Mais que le problème des pays musulmans, ce n'est pas la réforme de l'islam.